7h17, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Alors, tu veux revenir sur la proposition du Parti québécois au sujet de la caisse de dépôt et de placement?
Oui. Ce qui est drôle dans un parti politique parfois, Paul, c'est de penser que t'es les premiers à y avoir pensé. Tu sais, la caisse existe depuis des décennies, puis là, le monde se dit, hey, pourquoi on peut pas mettre nos REER là-dedans? Pourquoi les PME mettent pas des petits placements puis que les gens rentrent puis sortent? Faut comprendre c'est quoi l'avantage de la caisse. La caisse, c'est simple. Ils peuvent prévoir les cash flows qui rentrent, puis ils peuvent prévoir les cash flows qui sortent, et ils ne font pas de micro-gestion. Donc, les déposants sont importants, il y a des grandes masses d'argent qui rentrent, et comme les déposants retirent de l'argent en rente, ça se planifie, ça se gère bien. Donc, si on commence à créer un fonds géré par la caisse de dépôt, ben c'est de la micro-gestion, si tu veux. Même s'il est très gros, même si on met tous nos REER là-dedans collectivement, puis arrive McSween, comment il retire puis il rentre ses REER, là, ce rythme-là, il est pas défini par une rente. À moins qu'on veuille s'acheter tout le monde un régime à prestations déterminées collectif. Et là, j'appellerais ça, Paul, le régime des rentes du Québec, et ça existe déjà. Mais si on veut que les gens puissent bonifier, contribuer davantage pour s'acheter une plus grande rente, OK. Mais tu sais, penser que t'as révolutionné le monde, là, tu sais, du jour au lendemain, puis dire, hey, nous autres, on arrive avec de quoi, là? Hey, c'est-tu quoi autour de la table? Hey, moi, j'ai une idée. On peut-tu mettre nos REER dans la caisse de dépôt et de placement, puis investir dans le Québec? Hey, personne n'y avait jamais pensé. L'autre point, c'est de se dire que d'investir au Québec d'un point de vue purement financier, là on parle entre toi et moi, là. Le but de faire de l'argent dans une caisse de retraite, c'est de faire de l'argent sur le dos des autres. On se comprend? Tu veux faire de l'argent sur le dos du monde pour faire un bon rendement. Donc, tu vas presser des entreprises pour qu'elles te génèrent du rendement. Plus ces entreprises-là sont locales, plus tu fais de la pression sur les travailleurs locaux. Moi, j'aime beaucoup plus prendre la retraite des gens locaux, aller l'investir à l'étranger, c'est bizarre à dire, hein? Puis faire du rendement à l'étranger sur les travailleurs étrangers, puis ramener ça au Québec, c'est
à l'heure. Oui, mais en même temps, ça sert de levier, la caisse de dépôt. Tu sais, exemple, puis une des transactions historiques, sans la caisse, Vidéotron serait contrôlé par l'Ontario.
Oui, mais sans la caisse, on n'aurait pas payé deux fois trop cher.
Non, c'est correct, mais c'est aussi un levier quand même.
Ah oui, c'est un levier économique, mais c'est parce qu'on sert d'un levier de retraite pour générer des leviers qui semblent un peu politiques. Tu sais, pensez, Paul, on a offert près de deux fois plus que ce que Rogers avait offert pour la même compagnie. On a mis ça dans les mains d'une personne. Pendant une décennie et plus, on a fait des pertes dans le sens que on a récupéré notre cash, mais on n'a pas fait de rendement. Donc, on a eu un coût de renonciation complètement hallucinant pour une caisse de retraite. Et tout ça a permis à un groupe et une famille de maintenir le contrôle sur une entreprise. C'est le fun, la résultante. Mais ça a sauvé Québécois, parce que Québécois, c'est Vidéotron. Mais quand tu y penses, au bout du compte, il y a un manque de logique financière là-dedans pour la caisse, et la caisse est la première à l'admettre.
Ah non, ça, je sais qu'il y avait out. Je me souviens d'un passage.
De sortir de
oui, oui, de Michael Sabia qui était venu ici pour... Donc, lui...
C'était pas mes décisions à moi, c'était l'ancienne administration.
Oui, c'était pas mal ça. Ouais. Le litre d'essence, on le voit, là. Avant, c'était le lundi. Maintenant, la hausse est souvent programmée le jeudi comme hier. Et est-ce qu'on va se retrouver avec des hausses comme ça toutes les semaines?
Ben Paul, évidemment, là, les gens, tu sais, moi j'ai commencé à tinker le lundi ou le mardi, c'est une question de pas prendre ça le jour de paye. Mais ce qui est drôle, Paul, c'est le comportement puis la réalité. Tu sais, les véhicules automobiles sont en moyenne beaucoup plus gros qu'avant.
Ouais.
Beaucoup plus pesant qu'avant. Donc depuis 1980, il y a eu une. Si tu prends les ressources naturelles Canada, puis tu vas voir le poids moyen des véhicules, en 80 jusqu'en 2005, à peu près 2006, là, ça montait de façon quasi linéaire. Et puis ça rebaissait un peu, puis là ça remontait. Donc, on est aujourd'hui, promenez-vous sur la rue, là, les gens se plaignent du prix de l'essence, mais on n'a jamais vu autant de véhicules avec des personnes de 120 livres au volant, puis des places pour 8. T'sais? Et ça, ça crée une dichotomie entre la logique qu'on sait ce qui s'en vient et notre réalité de consommateur. Et Paul, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce qui influence le prix de l'essence. Parce que oui, là, le baril de pétrole, là, on va se le dire, depuis un an, est en augmentation. Il était à un plancher même en, t'sais, quand tu recules en 2016, on a déjà atteint moins de 30$ le baril. Là, on dépasse le 70$ américain. Autant pour le Brent puis le West Texas, on s'en vient, là. Donc, il va y avoir une hausse. On parlait hier d'une possibilité de monter jusqu'à 2$ le litre. Mais pourquoi? Un, le prix de baril va augmenter, oui, mais on a déjà été à 100$. Pourquoi on n'était pas à autant d'argent au niveau du litre d'essence? Mais là, il y a aussi une question de dollar américain, parce que si le dollar américain se déprécie ou s'apprécie, ça influence notre coût de baril. Fait que nous, par exemple, quand le baril de pétrole augmente, si notre dollar canadien s'apprécie, ça compense un peu. Donc, dans le moment, la dernière année, oui, le baril de pétrole a augmenté, mais au moins, ça a été légèrement compensé par une amélioration du dollar canadien. Et ce que les gens comprennent pas souvent entre le lien entre le prix de l'essence à la pompe puis le coût du baril de pétrole, c'est qu'entre les deux, il y a aussi une question qu'on a des taxes fixes. C'est-à-dire qu'il y a, certaines taxes au Canada puis au Québec qui sont pas en fonction du prix, mais en fonction du nombre de litres. Fait que quand le prix du baril de pétrole baisse, mais on baisse pas aussi vite. Par contre, quand ça remonte, ben là, ça remonte quand même plus vite. Tu comprends? Donc, il y a une espèce de dichotomie entre les hausses et les baisses du baril. Mais sachons une chose, Paul, c'est que notre gouvernement taxe les taxes. Donc, n'oubliez pas qu'il y a de la TPS et TVQ sur les taxes et sur le coût du baril.
Mais disons que les pétrolières aussi jouent pas mal avec les marges, là.
Paul, la marge de raffinage, qu'est-ce que
c'est
ça? Non, Paul, c'est pas une joke. C'est vrai, c'est vrai. Il y a, Paul, quand tu sais pas comment expliquer que tu essaies de profiter d'un congé, tu dis, c'est la marge de raffinage. OK, écoute, pour faire un parallèle avec Alain Crête, là, la marge de raffinage là, au niveau des pétrolières, c'est un peu comme une blessure au haut du corps pour un joueur du Canadien. C'est flou.
Salut, bon week-end. 7h23.